Classique.
Bonjour, nous allons parler aujourd'hui d'un champ nouveau dans le monde intellectuel, en tout cas en France. Il s'agit des études animales. Comme l'écrit l'une de nos deux invitées, Émilie Dardenne, les animaux sont au centre des systèmes de pensée, aussi les rapports entretenus avec eux sont-ils intimement liés aux rapports sociaux humains. Ils font par ailleurs pleinement partie des communautés humaines en tant qu'êtres vivants réels, dit-elle. Par conséquent, l'analyse des relations entre humains et animaux se développe comme se développe l'étude des animaux en tant que tels, de leur personnalité, de leur sensibilité aussi. Ces études animales, poursuit-elle, sont le pendant académique d'un mouvement politique, associatif, social, qui appelle de ses voeux une meilleure prise en compte de notre responsabilité collective envers les animaux. J'ajoute que ces études prennent notamment en compte la langue qui décrit, parle, évoque les animaux, la nôtre par exemple, qui selon Marie-Claude Marsollier, qui est également parmi nous, marque une opposition fondamentale entre les humains et les autres animaux. Voici donc un nouveau numéro du magazine Idées, le magazine qui interroge ceux qui pensent le monde et ses habitants, humains et non humains, un magazine que vous pouvez podcaster sur notre site www.rfi.fr ou sur votre moteur de recherche préféré. Vous pouvez bien sûr vous y abonner. Bonjour Émilie Dardenne.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en anglais à l'université Rennes 2. Vous êtes responsable du diplôme universitaire Animaux et Société et auteur d'une introduction aux études animales publiée au PUF, aux presses universitaires de France. D'abord, une question presque personnelle, Émilie Dardenne. Vous êtes maîtresse de conférences en anglais, je viens de le dire. Qu'est-ce qui vous a mené aux animaux, à ces études animales?
Alors, c'est un intérêt personnel ancien qui a éveillé cet intérêt. Et puis, quand j'ai poursuivi mes études d'anglais, hein, l'anglais, c'est une discipline qui est linguistique, mais qui est pas seulement linguistique. On s'intéresse aussi à la culture, à la civilisation des pays anglophones. Je me suis rendu compte que la question animale était une question développée dans les pays anglophones. Sur le plan historique, d'ailleurs, la Grande-Bretagne est le premier pays européen qui a voté une loi de protection animale et qui a développé un mouvement animaliste d'ampleur. Donc, quand je me suis lancée dans mes études de deuxième et de troisième cycle, je me suis intéressée à l'histoire des idées sur cette question. Et c'était quelque chose qui était peu étudié dans ma discipline, en fait, qui n'était pas étudié. Et donc, je me suis d'abord intéressée à l'histoire des idées du 19e siècle, au mouvement animaliste, notamment mouvement contre l'expérimentation animale au 19e siècle. Et puis, ensuite, j'ai évolué vers la philosophie anglophone, et notamment à travers la lecture, une lecture qui a été importante, c'est celle de l'ouvrage de Peter Singer, La libération animale, et j'y ai consacré ensuite mes travaux de recherche qui portent donc sur les animal studies exercées dans les pays anglophones. Et puis j'ai élargi à la question francophone et française plus récemment.
On va y en venir dans un instant pour essayer de comprendre ce que sont ces études animales. Bonjour Marie-Claude Marsollier.
Bonjour.
Vous êtes dans ce studio, vous êtes biologiste, ancienne élève de l'école normale supérieure, et vous travaillez au Muséum national d'histoire naturelle. Vous êtes donc auteur d'un livre dont nous allons parler dans le cadre de ces études animales, Le mépris des bêtes, un lexique de la ségrégation animale, publié également au PUF. Vous aussi, vous avez un parcours qui est un peu à l'image de celui d'Émilie Dardenne. Vous n'êtes pas enfermé en quelque sorte dans une spécialité.
C'est vrai que je suis arrivée effectivement à écrire ce livre sur la façon dont le langage français représente les animaux non humains, parce que d'abord en tant que biologiste, mais j'ai toujours eu un intérêt pour la lecture d'ouvrages qui commentent ou qui décrivent les comportements humains. Et je me suis aperçue, il y a une quinzaine d'années, qu'en fait, il y avait véritablement une révolution dans ce domaine et qu'il y avait énormément d'études qui avaient montré des capacités extraordinaires, enfin, qui sont proches, très proches, voire identiques à celles des humains chez les animaux non humains. Et toutes ces études, ça mettait en... en évidence notre proximité avec les des humains et des non-humains, et ce qui voulait dire aussi leur sensibilité. Et donc, ça interrogeait assez profondément le rapport que nous avions avec eux et tout ce que nous pouvions leur imposer. Et donc, c'est ainsi que j'ai ma sensibilité pour la condition des animaux non-humains est née. Et puis, c'est vrai qu'ayant la chance de travailler au Musée de l'Homme, dans un univers particulièrement interdisciplinaire, où on a à la fois des généticiens, des linguistes, des ethnologues, eh bien, toutes ces composantes se sont réunies pour finalement arriver à ce résultat.
Nos auditeurs, depuis le début de l'émission, ont peut-être été étonnés par ce terme « animaux non humains ». On va commencer avec cette définition, puisque vous vous intéressez au langage dans ce livre « Mépris des bêtes ». Il y a un animal dans le parler, j'allais dire, courant, et il y a l'animal non humain. D'où vient cette expression « animal non humain » ?
Alors, en fait, c'est simplement qu'il y a deux définitions très différentes, d'une certaine manière, qu'on retrouve dans tous les dictionnaires français actuels, du terme « animal ». « Animal », ça veut dire, aux sciences scientifiques, ça veut dire un être vivant. Alors, je vous lis la définition de...
Soyons précis.
D'une sorte de Bible qui est le trésor de la langue française informatisée, qui définit « animal » comme un être vivant organisé, doué de sensibilité et de mobilité. Alors, d'une manière plus scientifique, on va dire, on considère que les animaux, en fait, sont des membres du règne des animalia. Donc, animal, pour un scientifique, pour un biologiste, ça veut dire métazoaire. Donc, c'est un organisme eucaryote, c'est pas une bactérie. Il est multicellulaire, il est hétérotrophe, c'est-à-dire que c'est pas comme un végétal, il doit se nourrir de molécules organiques. Il est organisé en tissu et il est en général mobile. Bon, donc ça c'est la définition scientifique d'animal. Et à côté de ça, on a une autre définition qui est celle du sens courant et celle que retient la littérature juridique, qui est animal dans un sens restreint et par opposition à l'homme, c'est un être animé privé de raison. Donc dans ce sens, animal signifie être vivant. Être vivant métazoaire, très exactement, puisque les végétaux aussi sont des êtres vivants, métazoaire non humain. Et cette deuxième définition, encore une fois, qui est la plus courante aujourd'hui et qui se retrouve dans les textes juridiques, qui parle de ce que les humains ont droit et n'ont pas le droit de faire aux non humains, eh bien, cette définition, en fait, elle n'a pas de fondement scientifique. Parce que en science, quand on définit une catégorie sur la base de traits partagés par les membres de cette catégorie. Et c'est absolument pas le cas des animaux en tant que non-humains. Il n'y a aucun trait spécifique des animaux en tant que non-humains qui ne se retrouve pas chez les humains. Donc, plusieurs penseurs considèrent que animal au sens de animal non humain, en fait, c'est une catégorie sociale. Donc, comme il a été mentionné avant, en fait, les animaux non humains font partie de la société humaine, ont des rapports avec eux. Et le terme animal au sens de non humain, c'est vraiment une catégorie sociale qui désigne, en fait, des êtres qui sont privés de droits fondamentaux, c'est-à-dire le droit de ne pas être tué, de ne pas être torturé, de ne pas être détenu, de ne pas être exploité.
Émilie Dardenne, peut-on définir ce que sont les études animales qui, encore une fois, sont nouvelles en France, ou je me trompe ?
Non, vous ne vous trompez pas. C'est vrai que c'est nouveau. D'ailleurs, le terme est peu connu. C'est la traduction littérale de Animal Studies. Donc, pour les définir, on peut dire qu'elles s'intéressent aux relations entre les êtres humains et les autres animaux. On appelle ça aussi les relations anthropozoologiques. Elle s'intéresse également aux catégorisations qui organisent les animaux en différents groupes en fonction des rôles qu'on leur attribue. Et on voit que ces catégorisations sont éminemment plastiques, qu'elles sont évolutives et qu'elles dépendent aussi des sociétés humaines. Elles ne sont pas les mêmes dans différentes sociétés humaines. C'est quelque chose que l'anthropologue Philippe Descola a montré. On s'intéresse aussi dans les études animales à la philosophie, donc au statut moral des animaux non humains. et à leur place dans différentes disciplines, dans l'histoire, dans la géographie, la façon dont ils sont représentés dans la culture, dans l'art, dans le langage, etc. Et depuis la fin du XXe siècle, l'analyse de ces relations s'est développée au point de constituer un domaine de recherche à part entière. Donc quand on parle d'études animales, on englobe cette question dans les sciences humaines et sociales, dans les lettres, dans la philosophie, dans les arts et dans le droit. En général, on n'inclut pas dedans les sciences du vivant, c'est-à-dire les sciences vétérinaires et l'éthologie, mais on peut s'appuyer sur ces disciplines, hein, puisqu'elles sont importantes aussi pour comprendre la réalité de ce que vivent les autres animaux. Mais ce sont des études qui sont par nature résolument pluridisciplinaires, c'est-à-dire que les disciplines se juxtaposent. Hein, on fait de l'histoire en croisant l'éthologie, on fait de la philosophie en croisant le droit. Elles sont transdisciplinaires également, on dépasse le cadre des disciplines. Et l'un des constats de départ des études animales, qui est résumé par une anthropologue états-unienne qui s'appelle Margot DiMello et qui est une des fondatrices des études animales aux États-Unis, elle dit que les existences animales dans la société humaine relèvent davantage de la culture humaine que de la biologie. Et donc on s'intéresse particulièrement aux systèmes, aux attitudes, aux croyances qui fondent les relations anthropozoologiques. Et un de ces systèmes, c'est l'anthropocentrisme. Hein. C'est un exemple remarquable qui est étudié dans les études animales. Donc dans ce champ, il y a une autre dimension constitutive qui a trait à une exigence de responsabilité, c'est-à-dire que les universitaires qui travaillent dans ce champ ont à cœur de contribuer à porter sur les vies animales un regard positif, bienveillant, et surtout d'un point de vue méthodologique dans la façon de faire la recherche, c'est-à-dire d'un point de vue épistémologique, autant que possible, on essaie de s'approcher du point de vue des animaux non humains. Donc ça, c'est une révolution épistémologique, hein, c'est un changement de paradigme, c'est-à-dire que le rôle des animaux non humains est reconsidéré et on désanthropise des notions. Ça rejoint ce que disait Marie-Claude Marsollier, des notions telles que l'individualité, la subjectivité sont désanthropisées et un glissement s'opère alors dans la représentation des animaux, objets, outils, symboles, ils deviennent des sujets. Et des sujets de vie et des sujets d'études aussi pour les universitaires. C'est un processus qu'on peut comparer à celui qui a présidé à la constitution des études sur le genre, où on s'est rapproché du point de vue des femmes et des études postcoloniales.
Avec aussi une force de proposition, c'est le cas par exemple du livre de Marie-Claude Marsollier qui propose des changements dans la dénomination des animaux. Il y a une forme aussi de proposition, Marie-Claude Marsollier.
Oui, bah c'est sûr que, comme le dit Émilie, les gens qui s'intéressent à la condition animale ont à cœur d'essayer de faire un peu, non seulement prendre conscience aux gens, mais de proposer des pistes pour que... la situation évolue et le langage est tellement crucial dans notre représentation de nos relations sociales, dont les relations avec les autres animaux, que c'est relativement essentiel de se rendre compte de toute la charge métaphysique qu'il peut y avoir dans l'emploi de termes que l'on limite inconsciemment aux humains, ou l'emploi de...
On en prendra quelques exemples tout à l'heure.
Oui. Ou l'emploi de métaphores qui sont systématiquement dévalorisantes. Donc il faut se rendre compte de ça, et une fois qu'on s'en est rendu compte, essayer de progresser et d'avancer. Comme le dit Émilie, hein, c'est un courant de pensée qui est contre l'oppression d'une manière générale, et en fait qui est très parallèle à ce qui s'est passé pour les études féminines, où il y a aussi eu un effort conscient pour essayer de faire évoluer le langage. Et nous sommes les héritiers aujourd'hui de ce courant.
Émilie Dardenne, votre livre « Introduction aux études animales » est donc très vaste, compte tenu de ce que vous nous avez dit, hein, ces études qui croisent beaucoup de spécialités. On y parle de géographie, on y parle d'histoire, on y parle de religion aussi, la représentation des animaux dans la religion. On va s'intéresser, nous, dans ce magazine, au statut moral et à la philosophie, aux philosophes qui se sont penchés sur cette question. On peut dire que la réflexion sur les animaux est très ancienne. On l'a fait débuter en général avec Aristote.
Oui, effectivement, l'éthique animale contemporaine, on l'a fait remonter souvent aux années 70 avec des travaux fondateurs comme ceux de Peter Singer et de Tom Regan, mais elle est bien plus ancienne que ça. En fait, ce qui s'est passé à la fin du XXe siècle, c'est un renouvellement, mais elle a commencé bien avant, l'époque de la Grèce antique, avec par exemple Plutarque au premier siècle de notre ère, qui déjà mettait en valeur l'intelligence animale et contestait la prééminence humaine. Un autre exemple dans la philosophie antique, c'est Porphyre au IIIe siècle qui parlait des animaux comme capables de sensations, de souffrances et qui pouvaient donc subir des dommages et des injustices. Donc on a déjà les concepts qui sont mobilisés aujourd'hui autour de dommages, de l'injustice qui étaient mobilisés il y a très longtemps.
Alors il y a aussi des penseurs plus contemporains, tout étant relatif. Je pense notamment à Descartes qui revient systématiquement dès que l'on parle des animaux, Descartes et ses fameux animaux-machines.
Oui, tout à fait. Alors Descartes, c'est un peu le repoussoir la théorie de l'animal-machine, les animaux automates. C'est un des repoussoirs aujourd'hui. Bon, évidemment, c'est largement remis en cause, notamment par les travaux en éthologie. Les travaux en éthologie, ils ont contribué à faire émerger ce qu'on appelle le tournant animal, et ça c'est un pivot qui a permis justement l'émergence des études animales, qui fait surgir donc les animaux dans le réel, par l'éthologie, par une accumulation de preuves scientifiques sur la subjectivité des animaux, l'individualité des animaux, et qui s'appuie aussi sur la philosophie, et notamment le renouvellement de la philosophie animale depuis les années 70.
Alors, Émilie Dardenne, Marie-Claude Marsollier, je vous propose d'écouter un penseur, un philosophe qui s'est penché sur la question des animaux, ou de l'animal, le pluriel ou le singulier sont importants. Il s'agit de Jacques Derrida, l'apôtre de la déconstruction, qui a enseigné d'ailleurs aussi aux États-Unis et qui a lancé dans les universités américaines cette vague de déconstruction, en quelque sorte. Je vous propose de l'écouter parler de Descartes. Et je précise qu'il a écrit un livre, qui est un livre qui a été publié à titre posthume en 2006, un livre qui s'intitule « L'animal, que donc je suis », qui rappelle effectivement Descartes. Écoutons Jacques Derrida parlant de Descartes, c'était sur l'antenne de France Culture.
Ce cartésianisme, cette pensée du cogito depuis laquelle on déduit une certaine théorie de l'animal, commande de façon directe ou indirecte, philosophique ou non, toute la modernité de notre rapport à l'animal. L'animal, objet, victime naturellement de traitements qui ont toujours été cruels mais qui dans la modernité aggravent singulièrement la cruauté, de l'animal qui ne parle pas, ne répond pas surtout. Ce qu'il faut dire, c'est que Descartes ne tient pas l'animal simplement pour incapable de signifier, de produire, de répéter des signes, mais incapable de répondre, à une demande ou une question précise. Et c'est la question de la réponse. C'est moins la question du langage que celle de la réponse. Que veut dire répondre ? Voilà, que veut dire répondre ? Et donc, j'essaie de montrer que ce qu'on met au singulier quand on parle de l'animal ne répond à aucune réalité. Il n'y a pas quelque chose comme l'animal. Et déjà, le fait de ranger tous les vivants non humains sous la catégorie homogène et universelle de l'animal est une absurdité philosophique et une violence, et le début de la violence. Donc, il n'y a pas l'animal. Il y a le mot animal, je propose de parler de l'animal, ce qu'on appelle l'animal, c'est-à-dire ce mot d'animal sous lequel on classe absolument toutes les organisations du vivant qui ne sont pas nous. Eh bien, ce rapport au vivant non humain a une énorme histoire, donc j'essaie de donner à penser la complexité de notre rapport aux animaux, à ce qu'on appelle l'animal, et par conséquent à ce que nous appelons nous les hommes.
Émilie Dardenne, quel rôle a joué Jacques Derrida dans la pensée sur les animaux non humains ?
Alors, il n'est pas toujours cité comme un philosophe fondateur de l'éthique animale, et pourtant, il a une pensée importante qui est un petit peu plus reconsidérée aujourd'hui, justement sur la déconstruction. Il commence dans cette citation par parler de l'animal au singulier, mais il s'oppose à cette utilisation du terme animal au singulier dans une forme générique, parce qu'il voit que ça comme une vision simpliste et réductrice de la variété et de la complexité des vies animales, hein, c'est ce qu'il vient d'expliquer. Et donc, il ne faut plus, selon lui, réduire les animaux, l'énorme complexité du monde animal à ce singulier aberrant. Et donc, il penche plutôt pour des différences massives entre eux et nous. Et il s'agit aussi de se demander si, en tant qu'êtres humains, nous avons droit de nous attribuer tout ce que nous refusons aux autres animaux. Hein, il établit une liste de ces différentes capacités et de ces différents types d'expériences. Et la pensée de Derrida se retrouve chez d'autres auteurs aujourd'hui, par exemple l'écrivain Jean-Christophe Bailly qui met en garde son lectorat de la même manière contre l'utilisation d'un singulier réducteur qui fait disparaître les animaux et les individus animaux dans une masse. Si je peux me permettre une petite citation de l'ouvrage de Jean-Christophe Bailly qui s'appelle le parti pris animal. Il dit « Quoi que nous fassions, dès que nous abordons la question animale, c'est un peu comme si nous étions les victimes d'un effet arche de Noé. Ils sont à la fois comme une masse et comme une nomenclature, et c'est toujours un piège. Si d'un côté, nous pouvons en effet penser à une unanimité de la différence, de l'autre, chaque animal en particulier, au moment où nous le rencontrons, s'échappe pour donner consistance à la poche d'existence singulière qui est la sienne. » Donc Jean-Christophe Bailly, comme Derrida, pointe cette tension entre une masse statistique, l'animal, en fait, qui représente l'immense diversité des vies non humaines, et puis d'un autre côté, les individus animaux et le surgissement des individus animaux qui a lieu aujourd'hui dans les études animales.
Émilie Dardenne, d'évidence, la philosophie contemporaine s'intéresse aux animaux et la philosophie contemporaine, notamment aux États-Unis.
Notamment aux États-Unis, oui, je dirais peut-être de façon même plus large dans les pays anglophones, puisque parmi les philosophes tutélaires de l'éthique animale contemporaine, on cite souvent les deux philosophes, c'est Peter Singer et Tom Regan. Et Peter Singer, s'il est aujourd'hui rattaché à l'université de Princeton, est australien et il a fait ses études à Oxford. Donc c'est vraiment, ça s'inscrit vraiment dans le champ plus large que les États-Unis, mais de l'ère anglophone dans le sens large.
Alors je vous propose de l'écouter, Peter Singer, et vous nous expliquerez ensuite, Émilie Dardenne et Marie-Claude Marsollier, ce qui le distingue dans cette pensée liée aux animaux. Écoutons-le, cet extrait d'une émission de France Inter de 2013, et il explique dans un dialogue avec Elisabeth de Fontenay, qu'on écoutera après, quelle est sa préoccupation principale dans sa réflexion.
Moi, ma préoccupation s'inscrit au centre de la philosophie depuis Socrate. Socrate se demande comment nous devons vivre. Voilà la question. Que dois-je faire de ma vie? Et bien entendu, il y a de nombreuses questions plus particulières que cela, mais l'une des questions est... Est-ce que je dois manger des animaux? Dois-je soutenir l'activité commerciale moderne qui consiste à consommer des animaux? Pour répondre à cette question, moi je crois que la question de la souffrance animale est une question centrale et elle mérite une réponse. Les questions auxquelles Elisabeth de Fontenay se réfère peuvent être intéressantes sur le plan intellectuel, philosophique, pour connaître la relation de l'animal au monde, la question de la conscience animale et ainsi de suite. Mais ces questions sont moins centrales que la première question, à savoir, peuvent-ils souffrir? Et là, je m'inscris dans la ligne de Bentham. Et si les animaux peuvent souffrir, pouvons-nous soutenir cette souffrance en donnant aux producteurs de chair animale notre argent pour les encourager à élever de plus en plus d'animaux qui vont souffrir comme dans le passé. C'est ça la question de laquelle je pars. Donc vous voyez, le point de départ est radicalement autre.
Alors, comme s'il y avait une différence de taille entre la vision anglo-saxonne dans cette réflexion philosophique et la vision continentale européenne, je vous propose d'écouter Elisabeth de Fontenay qui discutait donc dans cette émission avec Peter Singer. Et Elisabeth de Fontenay parle de la pensée de Peter Singer avec laquelle elle n'est pas en accord, c'est le moins qu'on puisse dire.
Votre pensée utilitariste est très obsédée, mais je le suis aussi, mais très obsédée par la maltraitance des animaux. Et elle est extrêmement, on va dire ce mot, pathocentrée, centrée sur la passivité et sur la souffrance. Et moi, je me rattache à une tradition phénoménologique qui est d'abord été impulsée par Edmund Husserl, et qui a été en France extraordinairement illustré par Maurice Merleau-Ponty, qui s'intéresse à l'animal non pas seulement en tant que sujet souffrant ou sujet sentant, mais aussi à l'animal en tant que sujet en rapport avec un monde, pas simplement un environnement, mais un monde de signes que l'animal déchiffre. Et je crois qu'il y a là une orientation très différente, et je ne pense pas que l'utilitarisme puisse prendre en compte cette dimension de pensée des animaux. On peut dire que le mot « sentience », qui nous manque en français, c'est-à-dire à la fois être conscient et sensible, c'est de ça que je parle, mais c'est l'aspect de connaissance, l'aspect de pensée animale, de subjectivité animale en rapport avec des mondes qui croisent nos mondes, il me semble que c'est complètement liquidé par l'utilitarisme.
Émilie Dardenne, vous consacrez plusieurs parties de votre livre à cette réflexion, à la philosophie, au statut moral des animaux non humains. Y a-t-il... C'est une question qui me vient à l'esprit quand j'écoute ces deux intellectuels parler des animaux. Je précise que Elisabeth de Fontenay a écrit un livre qui s'intitule, parmi d'autres, hein, « Le silence des bêtes » en 1998, « La philosophie à l'épreuve de l'animalité ». Y a-t-il deux écoles y a-t-il plusieurs regards aujourd'hui, d'évidence oui, sur les animaux, sur le plan philosophique?
Oui, il y en a même plus que deux. Ce qu'Elisabeth de Fontenay pointe, c'est effectivement le pathocentrisme de l'approche utilitariste, qui est une approche parmi d'autres. Ce sur quoi Peter Singer insiste, le principe fondamental de sa pensée animaliste, c'est le principe d'égale considération des intérêts. Ça se rattache à la tradition utilitariste à laquelle il appartient et qui valorise effectivement la sensibilité. C'est la sensibilité qui est le critère qui permet à Singer de dessiner les contours de notre monde moral. C'est-à-dire que sont intégrés à la communauté morale tous les êtres sensibles, qu'ils soient humains ou non humains. Et il cite Bentham qui disait « La question n'est pas peuvent-ils raisonner ni peuvent-ils parler, mais peuvent-ils souffrir ?» La sensibilité est effectivement fondamentale dans le calcul utilitariste des souffrances et des plaisirs, mais on la retrouve chez d'autres penseurs, chez d'autres philosophes, l'autre philosophe tutélaire de l'éthique animale qui n'est pas utilitariste, qui est Tom Regan, qui a une approche qui se rattache plutôt à la déontologie. Il est aussi dans une approche pathocentrée, donc elle n'est pas exclusive à l'utilitarisme, l'approche de la souffrance.
Tom Regan et Émilie Dardenne qui considèrent que les animaux sont des individus, des sujets d'une vie.
Tout à fait. Donc ça fait peut-être le pont entre Singer et Elisabeth de Fontenay. Tom Regan, il défend une approche des droits des animaux. Donc Singer, c'est le principe d'égale considération des intérêts. Et Tom Regan, c'est les droits fondamentaux pour les animaux. Et donc ce qu'il défend, c'est l'idée que les animaux, en tout cas certains animaux, notamment les mammifères, les oiseaux, sont des sujets d'une vie. c'est-à-dire qu'ils ont des croyances, des désirs, une perception, le sens du futur, une vie émotionnelle, des intérêts, un bien-être individuel. Donc c'est une approche déjà qui est plus large que celle de Peter Singer, c'est-à-dire que dans l'utilitarisme, on valorise des états mentaux. Le plaisir, la douleur, alors que dans l'approche de la déontologie, on accorde une valeur non pas à des états mentaux, mais aux individus en eux-mêmes.
Marie-Claude Marcelier, vous voulez dire un mot sur ces différentes écoles de pensée autour des animaux aujourd'hui ?
Oui, alors moi, c'est effectivement, moi je trouve ça très très riche qu'il y ait différentes écoles de pensée, qu'on s'intéresse soit aux états mentaux. Enfin, pour moi, ça me semble très complémentaire, qui est à la fois cette sensibilité aux états mentaux d'un côté, et puis une approche, comme le dit Émilie, déontologique, où on considère que des sujets ont des droits indépendamment de ce qu'on imagine être leurs états mentaux, par exemple. Bon, moi je voudrais juste... Donc je pense qu'il n'y a pas du tout d'opposition, il y a une complémentarité. Et c'est vrai que c'est quand même un peu gênant pour Elisabeth de Fontenay de s'opposer aussi violemment à des gens qui, finalement, vont chercher à mettre en pratique leur compassion, leur intérêt pour les animaux non humains, ce qu'elle ne fait pas. Et je trouve que c'est un peu compliqué d'un point de vue philosophique, de consacrer beaucoup d'énergie à des approches très théoriques de phénoménologie, où on va parler des animaux non humains comme au centre de leur univers, etc. Donc toute une approche théorique extrêmement creusée, extrêmement fouillée. Et puis finalement, on va pas en tirer les conclusions concrètes, qu'il faudrait peut-être faire quelque chose pour ces êtres qu'on décrit finalement comme tellement exceptionnels, tellement remarquables. Et c'est vrai qu'Elisabeth de Fontenay s'arrête à ce seuil, ce qui aujourd'hui paraît quand même problématique.
Émilie Dardenne, il y a aussi une pensée politique sur les animaux, philosophique et politique également. Certains de ces penseurs considèrent qu'un animal pourrait avoir une forme de citoyenneté.
Oui, alors ça c'est la proposition de deux philosophes canadiens, Sue Donaldson et Will Kimlicka, dans un ouvrage récent de 2012 qui s'appelle Zoopolis, et qui donc se déplace sur le terrain politique et qui propose d'établir les obligations que nous avons envers les autres animaux à partir de la façon dont les animaux vivent dans les sociétés humaines. Et donc ils établissent trois catégories différentes avec des statuts différents. Il y a les animaux domestiqués qui, selon Donaldson et Kimlicka, devraient être des citoyens à part entière, avec des droits à la santé, des droits à la sécurité, à la socialisation. Il y a d'autre part les animaux sauvages, pour lesquels ils mobilisent le concept de souveraineté, c'est-à-dire que ces animaux sauvages qui résident dans leur propre communauté devraient être souverains dans leur propre communauté, et donc ils devraient être protégés de la colonisation humaine, de la domination, de l'invasion humaine. Et puis la troisième catégorie, c'est une catégorie à laquelle on est peu habitué, c'est celle des animaux liminaires, c'est-à-dire que ce sont les animaux qui vivent dans des lieux anthropisés, hein, qui vivent dans les villes, dans les villages, et qui dépendent des humains pour leur survie, mais qui ne sont pas domestiqués. Les animaux liminaires, ce sont les pigeons, les rats de Paris, les goélands en bord de mer, etc. Et pour ces animaux-là, ils proposent un droit de résidentialité, c'est-à-dire qu'ils seraient des résidents permanents, ils n'auraient pas le même statut que les animaux domestiqués, mais ils auraient quand même certains droits, comme celui de vivre dans un environnement plus sûr.
Émilie Dardenne, dans ce livre très précieux, Introduction aux études animales, et très riche, vous consacrez une partie de votre explication au langage et à l'anthropocentrisme dans la langue. Et c'est précisément la spécialité de Marie-Claude Marcelier, qui, dans son Mépris des bêtes, parle de tous ces mots qui qualifient ou qui oublient les animaux parfois. Que d'expressions, Marie-Claude Marcelier, dans la langue française qui s'inspire des animaux, et souvent, vous le remarquez, à leur détriment.
Oui, et c'est vrai que quand on commence à prendre conscience de ça, ça fait un peu chavirer notre, sentiment par rapport à notre langue.
Alors, il faut prendre quelques exemples qui sont parfois très injurieux à l'endroit des femmes. Une buse, par exemple, une bécasse, une dinde ou un butor pour une brute. Bon, la grue, il y a pour la perruche. Bon, il y a pas que ça. Il y a la cervelle de moineaux. Enfin, il y a plein de le dindon de la farce, la vache à lait. Enfin, bon, il y a une quantité énorme d'expressions qui viennent des animaux. Ça, c'est déjà symptomatique, non?
Oui, en fait, c'est assez déroutant, je dois dire, quand on commence à faire la liste de... Alors, évidemment, il y a une poignée d'expressions qui sont positives pour les animaux. On peut dire fort comme un taureau, brave comme un lion...
Gai comme un pinson.
Voilà. Bon, mais il y en a... Enfin, j'ai compulsé plusieurs lexiques et dictionnaires. Il y en a une dizaine, peut-être.
Mais même les philosophes y sont mis. Hein, Plaute et puis Hobbes, par exemple, repris par Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme.
Absolument. Bon, alors en fait, c'est une citation qui est tronquée par Hobbes, parce qu'en fait, Plaute dit l'homme est un loup pour l'homme quand il ne le connaît pas, d'une certaine manière. Cela dit, ben, en fait, on aimerait bien que l'homme soit un loup pour l'homme, parce que les loups, entre eux, ne s'entre-dévorent pas, ne détruisent pas tout.
Mais il y a du travail pour changer cela, parce que vous espérez que l'on va changer de regard sur les animaux. Vous voyez, MeToo, le mouvement MeToo aux États-Unis est devenu en France Balance ton porc.
Oui.
Intéressant, ça.
Oui. Et donc, c'est tragique, parce que, évidemment, enfin, on comprend la nécessité de dénoncer les prédateurs sexuels. Pour les femmes, c'est incontournable. C'est une obligation. Pour se libérer, c'est absolument fondamental. Mais le problème, c'est que inconsciemment, on va utiliser en fait des êtres qui sont opprimés pour essayer de se libérer soi-même d'une oppression. Et là, c'est là où ça devient vraiment problématique. Il faut faire un petit peu attention, quoi.
Pourquoi on en veut tant à ces beaux animaux que sont les porcs ?
C'est vraiment difficile à comprendre, honnêtement, parce que d'un point de vue éthologique, les porcs sont des animaux qui sont extrêmement intelligents, qui jouent mieux aux jeux vidéo que les chiens.
D'ailleurs, on a parlé dans cette émission de George Orwell, de sa ferme des animaux. Qui prend le contrôle de cette ferme pour établir une dictature ? Ce sont des cochons, avec le chef des cochons, Napoléon.
Exactement. Donc, en fait, c'est connu depuis très longtemps que les porcs sont des animaux vraiment intelligents. Et les études en cognition animale le démontrent. Les porcs, ils savent se servir d'un miroir pour chercher de la nourriture à laquelle ils n'ont pas accès directement. Ils savent essayer de tricher pour entraîner des concurrents sur des fausses pistes quand ils cherchent de la nourriture. Donc, ils ont une vie cognitive qui est absolument remarquable. Et donc... Alors, est-ce que c'est parce que les humains sont si friands de leur chair qu'il y a eu cette... je ne sais pas. Alors, en fait, ça remonte il y a très longtemps, puisque l'Église, pour l'Église aussi, il y a dès le début une espèce d'antagonisme entre le porc qui fouine le sol, dont la tête est tournée vers le bas, et puis les humains qui regardent vers le haut.
Mais prenons un exemple concret que vous posez dans le livre, Marie-Claude Marsollier. Pourquoi parle-t-on du visage d'un humain et d'une gueule pour un animal?
Voilà, et c'est vrai que c'est... Quand on remarque ça, c'est les humains ont juste le monopole du visage. Alors que le terme visage peut servir dans des tas d'expressions. Il y avait une citation où on parlait du visage de la terre maternelle. Donc en fait, visage peut être utilisé dans des tas d'expressions, mais jamais pour des animaux non humains en français. Je pense que ça fait... Enfin, je suggère que c'est lié à ce dont Derrida parle, donc dans l'animal que donc je suis, et aussi dans cette interview, il dit l'animal c'est quelqu'un qui ne répond pas. Et c'est aussi un individu qui est tel que l'homme, les humains n'arrivent pas à se sentir vus par cet individu. Comme si il était impossible pour eux d'imaginer un point de vue extérieur, une autre façon de considérer le monde qu'eux-mêmes. Et c'est vrai que considérer le monde, c'est le regard. Donc un regard porté par un non-humain sur un humain, ça paraît comme une espèce de crime de lèse-majesté, en imaginant qu'il peut y avoir une subjectivité derrière le regard. Et c'est vrai que dans visage, il y a visum, ça en dérive. Et donc le visage, c'est le regard, quelque part. Donc dénier un visage aux autres animaux, c'est aussi leur dénier la possibilité d'un regard, d'une subjectivité qui interroge, qui répond.
Alors il faut, là je reprends une autre expression, appeler un chat un chat. Vous vous dites en revanche que dans certains cas, on élude par exemple la mort des animaux, l'abattage des animaux,
oui.
Tout ce qui est souffrance animale dans la langue.
Absolument. Donc ça, c'est une autre partie de notre lexique où on va euphémiser, on va nier en fait la violence, les violences physiques qu'on impose quotidiennement aux animaux. Et les violences physiques aux animaux, c'est 3 millions de morts par jour dans les abattoirs français. C'est 1 milliard tous les ans, juste dans les abattoirs pour les animaux terrestres, mammifères et oiseaux. Sans parler des poissons qui sont sur les ponts des navires de pêche. Donc pour dire, cette violence physique, elle est intense, elle est énorme. Et eh bien, comme pour beaucoup de choses traumatisantes, il y a en place des tas de dispositifs pour atténuer cette violence et que la mise à mort des animaux, elle n'apparaisse pas comme la mise à mort d'êtres sensibles, mais effectivement comme de l'abattage, comme on abat de la houille, on abat des cloisons, des cartes, du bois. Et donc, il y a, effectivement, j'en parle un peu dans mon livre, toute une série de métaphores qui fait passer, d'une certaine manière, la mise à mort d'un animal et le traitement de son cadavre comme l'abattage d'un arbre et puis l'écorçage du tronc, etc. Par exemple, l'écarissage aussi, c'est quelque chose qui est a priori au début du domaine de la pierre ou du bois. Et donc voilà, on peut écarrir un cadavre animal comme on écarrit un morceau de marbre.
D'autant que tout ça se passe maintenant loin de la vue des habitants des villes, puisque la population, en tout cas sous nos contrées, est essentiellement urbaine. D'évidence, Émilie Dardenne, le langage est important dans l'étude du langage, dans ces études animales.
Oui, bien sûr, c'est une dimension importante des études animales. Et pour revenir sur l'occultation des individus animaux dans le langage, je rejoins tout à fait ce que dit Marie-Claude. Des universitaires en études animales critiques, donc les études animales critiques, c'est le pendant politique des études animales mainstream. Donc la sociologue Karen Morgan et l'économiste Matthew Cole soulignent que il s'agit pas simplement du fait que on ne sait pas ce qui se passe dans les élevages intensifs et dans les abattoirs, mais on ne veut pas savoir. Et donc c'est une culture du déni, c'est une construction consciente de la dissimulation qui se joue notamment dans le langage. Et je voudrais ajouter un exemple récent dans la crise du Covid. Il y a quelques mois, aux États-Unis, beaucoup d'abattoirs ont été obligés de fermer puisqu'il y a eu des taux élevés de contamination à la Covid-19 chez les salariés. Et donc, les animaux des élevages, notamment les poulets et les cochons, ne pouvaient plus être abattus dans les abattoirs. Les éleveurs et les éleveuses donc ont dû, même s'ils n'en avaient pas le souhait, ils ont été contraints de mettre à mort eux-mêmes ces animaux. Et ils ont utilisé des techniques violentes de gazage, d'asphyxie en coupant les systèmes de ventilation, où ils ont abattu les animaux avec des tirs au pistolet à clous. Et on a appelé ça la dépopulation. On a appelé ça la dépopulation des animaux d'élevage. Un terme qui est défini par l'association américaine vétérinaire comme la destruction rapide d'une population d'animaux en réponse à des circonstances urgentes et en tenant compte autant que possible du bien-être des animaux. On imagine bien le niveau de bien-être des animaux qui meurent asphyxiés parce qu'on a coupé les systèmes de ventilation. Donc là, c'est un euphémisme radical.
Oui, je faisais référence à Orwell tout à l'heure, et là, il s'agit de la novlangue. Hein. Cette dépopulation pour décrire un massacre est assez effrayante. Où en sont aujourd'hui, Émilie Dardenne, les études animales? Elles croisent des études, on parlait du féminisme également, sur les femmes, sur le colonialisme, c'est ce que l'on appelle l'intersectionnalité, non ?
Oui, tout à fait. Alors, on parlait tout à l'heure du croisement entre la mise en parallèle entre la discrimination et l'oppression des femmes et celle des animaux. Il y a une autrice qui est importante aussi dans les études animales contemporaines qui s'appelle Carol Adams. et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle La politique sexuelle de la viande, où elle met en parallèle les deux formes d'oppression par trois vecteurs qui sont la réification, c'est-à-dire le fait de réduire l'autre à un objet, qui fonctionne à la fois pour les femmes et pour les animaux. Le deuxième vecteur, c'est la fragmentation, le fait qu'on découpe les individus. Alors, on les découpe littéralement pour les animaux, pour les manger, et on les découpe symboliquement pour les femmes, qui sont parfois réduites à certaines parties de leur corps. Et puis, le troisième vecteur, c'est la consommation, qui peut être à nouveau littérale quand on consomme de la chair animale, ou qui peut être passive dans le cas de la consommation de l'image des femmes dans la publicité ou la pornographie. Donc il y a ce parallèle-là, il y a aussi un parallèle entre l'esclavage humain et l'oppression des animaux. Là, je pense au travail d'une autrice américaine qui s'appelle Marjorie Spiegel, et qui voit une corrélation entre ces deux types d'appropriation de l'autre par justement l'appropriation des corps des esclaves et des animaux qui peuvent être marqués ou qui pouvaient être marqués physiquement, le transport, ils sont transportés dans des conditions indignes où ils sont entassés, confinés pendant des jours ou des heures, et puis un anéantissement de la structure sociale des groupes. Dans le cadre de l'esclavage, comme dans le cas de certains types d'élevage où on sépare, par exemple, les mères des petits.
Merci, Émilie Dardenne. On a bien compris que ces études animales sont puissantes et continuent à étudier cette condition animale.
Oui, il y a plein d'autres disciplines qu'on n'a pas évoquées, mais notamment le droit animalier, qui est une discipline importante, qui est en pleine réflexion autour de la façon dont on pourrait faire évoluer le statut, le régime juridique des animaux. Il y a un versant également politique, où on voit que des chercheurs et des chercheuses qui étudient l'émergence de la cause animale en politique, une émergence qui est aussi assez récente, avec la création de partis qui sont dédiés à la cause animale en France, notamment avec la création du parti animaliste en 2016. Et puis d'autres études sur le paysage animaliste constitué de différentes associations, de différentes organisations qui suivent des voies différentes pour faire entendre les intérêts des animaux. Par exemple, la voie d'une part welfariste, c'est-à-dire une voie où on s'intéresse à l'amélioration des conditions de vie des animaux, ou une voie abolitionniste, où là on vise la fin de l'exploitation animale.
Merci, Émilie Dardenne. Il faut lire donc votre livre « Introduction aux études animales » publié au PUF, aux Presses universitaires de France. Merci, Marie-Claude Marcelier. Vous avez écrit, vous, « Le mépris des bêtes », un lexique de la ségrégation animale. Vous préconisez d'un changement de vision dans les mots, dans la dénomination des animaux. Il faut aussi lire votre livre. Livre également publié au PUF. Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité et dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, un point sur l'actualité du monde sur RFI.